Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière, sera François Morin, auteur du Nouveau Mur de l'Argent, essai sur la finance globalisée aux éditions du Seuil. Alors, la semaine dernière, nous avions fait une première émission sur la finance, une émission un peu simple pour que chacun puisse bien comprendre de quoi François Morin et moi-même parlions. Cette deuxième émission entre en plus au cœur des problèmes que voulait éclairer François Morin dans son ouvrage, tout en continuant de tenter de définir les termes utilisés. Mais rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. Mon invité m'a dit hors micro, je crains une crise de 29 démultipliée. Alors il parle d'un ton mesuré, calme, avec des mots d'économiste, comme crise systémique majeure par exemple, mais le problème est là. Une crise de 29 démultipliée est pour lui possible d'une part, et d'autre part une oligopole bancaire internationale s'est développée qui porte atteinte à la décision démocratique. C'est le nouveau mur de l'argent. C'est ce dont il va nous parler dans cette deuxième émission. La semaine dernière, on avait parlé de la libéralisation des mouvements des capitaux. Et à ce propos, vous aviez dit qu'il y avait eu un poids qui était devenu de plus en plus important de grands acteurs. Mais la dernière fois, vous n'aviez pas défini quels étaient les grands acteurs en question. C'est qui ?
Alors, les grands acteurs en question sont les suivants. Historiquement, on a eu deux catégories d'acteurs. Les premiers ont été ces grands investisseurs institutionnels d'origine anglo-saxonne, essentiellement américains, qui ont vu leur poids s'accroître à cause à la fois du mouvement de libéralisation, on en a parlé la semaine dernière, mais aussi en raison d'une législation fiscale américaine qui a favorisé l'émergence de ce qu'on appelle les grands fonds qui collectent de l'épargne sur une base de ce qu'on appelle les cotisations définies. Bon, c'est un système fiscal américain qui fait que ces grands investisseurs se livrent une lutte acharnée entre eux pour collecter de l'épargne aux États-Unis ou ailleurs et pour permettre à ceux qui ont apporté leur épargne d'avoir les meilleurs rendements possibles. Mais ces grands investisseurs n'ont pas une obligation de résultat comme c'était le cas auparavant, notamment pour payer des retraites, mais simplement une obligation de moyens. Ils s'engagent simplement à réaliser le meilleur résultat possible. Donc le risque, en fait, est porté non pas par l'investisseur, mais par celui qui apporte son épargne. Alors, cette épargne a pris une extension extrêmement importante aux États-Unis. Elle est gérée donc pour le compte de tiers, comme on dit, par ces grands investisseurs. Et ces grands investisseurs ont placé cette épargne, évidemment, en bourse, dans les grandes entreprises américaines, mais très vite aussi ailleurs dans le monde, en Europe, au Japon. Et s'est développé de cette façon-là des nouvelles pratiques dont on a parlé la fois dernière, liées à ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance des entreprises, avec toutes les contraintes, notamment en termes de rentabilité financière, liées à la présence massive de ces grands investisseurs anglo-saxons qui gèrent des fonds de pension pour le compte de tiers, encore une fois, au sein des plus grandes firmes du monde. Alors, on peut dire que ces acteurs sont devenus très puissants, surtout à partir du milieu des années 90. Pourquoi ? Parce que les masses d'épargne collectées par eux sont devenues extrêmement importantes, beaucoup plus importantes que les masses d'épargne de fonds de retraite traditionnels aux États-Unis, dans la mesure où le stock en valeur de cette épargne nouvelle a dépassé le stock ancien, si je puis dire. Cette épargne nouvelle a donc pris une importance considérable à partir de ce moment-là. Alors ça, c'était une première étape. Et on connaît tous le plus grand investisseur institutionnel du monde. On en voit ses publicités un peu partout, même en France. C'est le groupe Fidelity, un groupe américain qui gère aujourd'hui plus d'un 1000 milliards de dollars dans le monde de fonds, essentiellement de fonds de retraite d'origine anglo-saxonne. Alors ce qui est nouveau, ce qui est apparu ensuite, à la fin des années 90, c'est, je dirais, le rôle des banques dans cette affaire-là. Quand un investisseur institutionnel gère des fonds de retraite, en fait, il utilise une société de gestion. Une société de gestion peut gérer de cette façon plusieurs grands types de fonds avec des fiscalités du reste différentes. Par exemple, Fidelity gère plusieurs centaines de fonds différents avec des risques à chaque fois du reste particulier. Et donc, il y a des sociétés qui gèrent à l'intérieur de ces investisseurs les fonds qui sont apportés. Or, ce qui est tout nouveau, c'est la prise de contrôle de ces sociétés de gestion par les plus grandes banques internationales à la fin des années 90. Ce qui fait que les grandes banques internationales, aujourd'hui, ont plusieurs responsabilités, plusieurs fonctions dans l'activité qui est la leur, et notamment, donc, de plus en plus, cette responsabilité auprès des grands investisseurs, dans la mesure où elles sont, encore une fois, présentes au capital, contrôlent le capital de ces sociétés de gestion, ce qui démultiplie leur pouvoir d'allocation des capitaux à l'échelle internationale. Alors, ces grandes banques internationales remplissent non seulement cette fonction, mais en plus, elles interviennent sur les marchés financiers de façon de plus en plus active. Elles ont toujours, certes, leur activité d'octroi de crédit traditionnel, mais en plus, elles fournissent des produits de plus en plus sophistiqués sur les marchés financiers, qui sont les produits dérivés, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui fait que, à côté des investisseurs institutionnels, couplés à eux, se trouvent maintenant désormais ces grandes banques internationales et le rôle qu'elles jouent de plus en plus sur ces marchés. C'est la raison pour laquelle, dans mon ouvrage, je parle d'un oligopole bancaire international formé par les plus grandes banques internationales qui représente la forme la plus concentrée de cette finance globale qui aujourd'hui agit sur les marchés financiers.
Des sous et des hommes sur les greffes, mais on est toujours en compagnie de François Morin, qui est ancien membre du Conseil général de la Banque de France et du Conseil d'analyse économique, une pointure en somme. Vous verrez, on part d'une petite question de définition et on en arrive au cœur du problème, les risques de crise systémique, ou dit autrement, les possibilités de crack.
Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de marché de produits dérivés. Alors, c'est un vaste mystère, vous pouvez m'expliquer ?
C'est un vaste mystère pour beaucoup de monde et pourtant ça représente aujourd'hui une réalité extrêmement lourde, importante. Si on essaye de quantifier d'abord cette réalité, on peut dire que, en prenant l'année 2002, c'est ce que je montre dans l'ouvrage, ces marchés de produits dérivés représentent des sommes considérables en termes de transactions, puisqu'on estime que ça représente 700 000 milliards de dollars de transactions sur une année, alors que, par exemple, et c'est une donnée comparable, le PIB mondial, sur la même période, 2002, n'est que de 32 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, 32 000 d'un côté, 700 000 de l'autre. 700 000, représentent les transactions sur les produits dérivés. Et ces données sont comparables parce que toutes ces transactions passent dans les systèmes de règlement des banques centrales. Et le risque est le suivant, c'est que s'il y a un défaut dans une transaction, qu'il s'agisse des produits ou des services d'un côté, ou des transactions sur produits dérivés, eh bien, vous avez des risques systémiques qui peuvent se développer à l'intérieur des systèmes bancaires. Donc, il faut avoir conscience de ce que représentent aujourd'hui ces produits dérivés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit dérivé ? Un produit dérivé, c'est un produit de couverture, c'est un produit d'assurance. On s'assure contre quoi ? Eh bien, dans les marchés financiers, on veut s'assurer essentiellement contre des variations de prix. Les opérateurs n'aiment pas des variations brutales de prix. On le comprend assez facilement pour une entreprise. Lorsque une entreprise veut vendre un bien dans 6 mois, elle ne souhaite pas que le prix de ce bien puisse varier fortement, par exemple à la baisse, dans cette période de 6 mois, alors qu'elle sait qu'elle va vendre ce produit dans 6 mois. Donc elle va essayer de se couvrir contre des variations potentielles de ce prix en achetant un produit financier, qu'on va appeler un produit dérivé, pour éviter de subir cette fluctuation négative. Alors, quels sont les principaux produits dérivés, quels sont les principaux risques qui sont couverts par les produits dérivés ? Eh bien, deux risques essentiels sont couverts par les produits dérivés. D'abord, on se couvre contre les variations d'un prix très particulier qui est le taux d'intérêt. On veut se couvrir contre, par exemple, la baisse du taux d'intérêt, surtout si on a prêté de l'argent. Ça, c'est un premier prix contre lequel on veut s'assurer s'il doit varier. L'autre grande catégorie de produits dérivés concerne les taux de change. On veut se prémunir contre les variations de taux de change. Une entreprise qui exporte beaucoup ne souhaite pas voir, par exemple, le dollar s'affaisser brutalement alors qu'elle sait aussi qu'elle va vendre son produit dans les prochains mois. Et donc, elle va se prémunir contre une baisse du dollar. Et donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure des 700 000 milliards de dollars, la plus grande partie de ces transactions consiste en des produits d'assurance contre les variations, soit du taux d'intérêt, soit des taux de change dans le monde. En quoi ça peut concerner le citoyen que vous êtes et que je suis ? Tout simplement que, avec l'extension formidable de ces produits, eh bien, on accroît les risques dans notre système économique. On accroît les risques, c'est un peu paradoxal, puisque ces produits sont faits pour lutter contre les risques. Mais oui, bien sûr, ils sont faits pour lutter contre les risques. Mais en même temps, ceux qui acceptent de prendre le risque à leur charge, ce qui a échange de risque, sont des spéculateurs. Quand on crée un produit dérivé pour s'assurer contre des variations, on crée par là même aussi en même temps un spéculateur. Et les spéculateurs font courir par définition des risques au système puisque eux pensent pouvoir deviner l'avenir, anticiper l'avenir des variations contre lesquelles on souhaite se prémunir. Et la preuve en est, c'est que les grandes crises qui ont secoué nos systèmes économiques ces dernières années viennent précisément de la spéculation qui est générée par ces marchés, dans la mesure où il peut y avoir des réactions en chaîne très importantes lorsque les anticipations des spéculateurs sont déjouées par les faits. Et à ce moment-là, on a des pans entiers du système qui s'effondrent. On l'a vu au moment de la crise asiatique, on l'a vu aussi au moment de l'effondrement de 2001 de la bourse. Et on le voit dans des affaires particulières comme Enron ou d'autres, où la spéculation finalement a mal anticipé le cours des choses. On l'a vu encore au mois d'octobre dernier avec l'affaire d'Amarante, qui est un hedge fund qui a fait des anticipations sur le marché gazier qui était complètement erroné, et où en l'espace de 3 jours, ce hedge fund a perdu 6 milliards de dollars, risquant d'entraîner du reste avec lui d'autres institutions si justement les principales banques et notamment les banques centrales n'étaient pas intervenues pour limiter les dégâts. Voilà, donc par derrière ce développement phénoménal des marchés de produits dérivés, il y a des risques qui sont liés à l'accroissement de la spéculation et aux risques de contrepartie, comme on dit, qui peuvent être générés dans le système économique en raison de spéculations hasardeuses, voire dangereuses, qui peuvent naître de ces opérations.
Des sous et des hommes sur Aligre FM, toujours en compagnie de François Morin, auteur du Nouveau Mur de l'Argent. Alors, François Morin avait utilisé dans ses propos un terme inquiétant. Je voulais en savoir plus. Et vous verrez, eh bien, j'aurai quelques raisons de rester dans l'inquiétude.
Tout à l'heure, vous avez utilisé deux mots que je n'avais pas compris, l'histoire des marchés de produits dérivés. Mais il y avait un deuxième mot, c'était oligopole bancaire. Ça fait toujours un peu frémir qu'on entend oligopole. C'est dangereux, cette affaire ?
Oui, c'est dangereux parce qu'il s'agit d'acteurs qui ont une action à la fois concentrée et très probablement concertée. Ce qui, évidemment, dans les mécanismes de marché, fait peur. Dans la mesure où les prix peuvent être d'une certaine façon influencés par des acteurs de cette puissance-là et qui se concentrent également tous les jours davantage. Cet oligopole, il a une influence aujourd'hui probablement plus grande sur les taux d'intérêt que l'ont par exemple les banques centrales. Donc voilà un premier élément qui fait un peu peur. Certes, les taux d'intérêt se forment par des mécanismes de marché, donc sont devenus libres, mais dans la mesure où cet oligopole est à l'origine de produits qui ont une influence sur la formation des taux d'intérêt, et je pense au taux swap en particulier, qui est une variété de taux d'intérêt, cet oligopole est en mesure d'influencer la formation des taux d'intérêt. Deuxièmement, cet oligopole est à l'origine des produits dérivés, donc touche des commissions très importantes, qui est une source de revenus considérable pour les plus grandes banques aujourd'hui, et qui est une forme de prélèvement sur l'activité économique. Enfin, troisièmement, cet oligopole, comme je l'ai dit tout à l'heure, gère les sociétés de gestion des grands investisseurs institutionnels. Donc sont très directement à l'origine, maintenant, on peut le dire comme ça, de la valeur actionnariale telle qu'elle s'exprime dans les grands groupes privés à travers cette norme financière qui constitue également une troisième forme de prélèvement sur l'activité économique. Voilà, alors quand on regarde tout ça, on ne doit pas être étonné que depuis quelques années, surtout depuis 2 ou 3 ans, que les profits de ces grandes banques explosent littéralement et pèsent sur très très probablement sur l'activité économique, à la fois par les volumes de prélèvement que ça représente, mais aussi sur les formes d'organisation, non seulement des marchés financiers en général, mais tout simplement l'activité économique, puisque encore une fois, à travers l'allocation des capitaux, les normes financières exigées, c'est l'ensemble de l'activité économique, c'est le monde du travail qui se trouve touché par cette nouvelle organisation financière du monde.
Que peuvent faire les États, on pourrait dire, enfin, parce que normalement, l'activité économique pourrait être régulée par l'État, enfin, elle l'a été à une période, enfin, les peuples pourraient peut-être un peu décider d'une façon ou d'une autre par l'intermédiaire des États.
Alors, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une autre planète économique que celle qu'on a pu connaître il y a encore quelques années, dans la mesure où non seulement la globalisation financière change radicalement la donne, dans la mesure où on a affaire à des variables qui sont devenues mondiales, des variables globales comme les taux d'intérêt et les taux de change, sur lesquelles les États n'ont plus aucune prise. Par contre, oui, cet oligopole dont je parlais tout à l'heure a une prise sur ces variables globales. Et cet oligopole n'est pas évidemment aujourd'hui régulé comme pouvaient être encore récemment les systèmes bancaires nationaux par les autorités monétaires et les banques centrales en particulier. Donc, on a affaire à des acteurs qui se sont émancipés, en quelque sorte, des cadres nationaux de régulation et qui ont le champ libre devant eux aujourd'hui dans leur action. Donc on est sur une nouvelle planète économique, et si on ajoute aux questions que j'ai soulevées la question de l'endettement des États, qui est une question qui se surajoute à celle que nous avons vue, endettement qui est lié en grande partie aux dégâts qui sont provoqués par cette globalisation financière. Le lien social est fondamentalement touché par l'émergence de cette finance globalisée, eh bien on s'aperçoit que les États ont des marges de manœuvre de plus en plus étroites dans leur action et ne sont plus à même aujourd'hui à faire face à cette nouvelle forme d'organisation du monde impulsée par la globalisation financière.
Est-ce que ça veut dire qu'à la limite, il serait plus intéressant pour moi de chercher à devenir le président directeur général de Citigroup que des États-Unis ?
Je pense que le pouvoir, en effet, se trouve davantage maintenant du côté du monde financier que du côté du monde politique. Il y a toujours eu des formes de confrontation entre le pouvoir politique et le pouvoir financier. Mais quand on regarde la situation actuelle, on peut dire que aujourd'hui, le monde de la finance globalisée a servi en quelque sorte les différents pouvoirs politiques, même démocratiques, de nos sociétés contemporaines, à travers précisément l'endettement des principaux pays du monde et les services de la dette que représentent des parts croissantes dans les budgets des différents États. On a là effectivement une configuration qui rappelle celle qui, par le passé, a pu survenir dans certains pays, notamment en France, dans les années 20, avec ce qu'on a appelé à l'époque le mur de l'argent, pour ça que mon ouvrage s'appelle Le nouveau mur de l'argent, à mesure où je crois que la confrontation entre pouvoir politique et pouvoir financier, aujourd'hui, va se développer à l'échelle mondiale. Et on en voit déjà aujourd'hui les conséquences à travers les crises systémiques qui se développent, qui sont liées à l'émergence de cette finance globale et à l'impuissance des États à faire face à ce type de crise aujourd'hui.
Alors, c'était donc Des sous et des hommes en compagnie de François Morin. François Morin a écrit un livre qui s'appelle Le nouveau mur de l'argent, essai sur la finance globalisée. C'est aux éditions du Seuil. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un livre un petit peu compliqué, pas de lecture vraiment facile, mais je pense qu'il met en avant des sujets extrêmement importants, extrêmement dangereux même, et je pense que c'est ce qu'a voulu montrer François Morin. Je ne suis pas sûre, par ces deux émissions, d'avoir montré toute la saveur, toute l'intelligence des propos qu'il tient. Donc je ne peux que vous encourager à lire le livre qu'il a fait. Voilà, et pour nous, la semaine prochaine, toujours un vaste mystère, peut-être les OGM, peut-être quelque chose sur le protectionnisme, puisque j'essaye désespérément de réussir à contacter deux auteurs qui mettent en avant cette thématique qui, pour ma part, me semble absolument essentielle. Voilà, à la semaine prochaine, néoprotectionnisme ou OGM, mystère.